Climate Tech Back, ou comment devenir une entreprise régénératrice. Une émission en partenariat avec Interface.
Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Climate Take Back, une émission proposée par Radio Imo, Radio Territoria et Interface. Vous le savez peut-être, la France s'est fixée en 2019 l'objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Cette nouvelle donne climatique impose une accélération de la décarbonation du pays, une redéfinition de notre système énergétique, encore dépendant bien sûr aux deux tiers aux énergies fossiles. Alors comment les entreprises peuvent-elles changer la donne, changer ses modes de fonctionnement, de production, d'organisation afin de devenir une entreprise plus vertueuse? Comment établir une véritable stratégie climat dans les entreprises? C'est ce que nous allons voir avec nos deux expertes du jour, nos deux invités, qui représentent deux sociétés très, très différentes, on va le voir. Hein, une côté, l'autre non côté, une américaine, l'autre française, l'une qui fait des produits et l'autre des services. Laetitia, Laetitia Boucher, vous êtes responsable développement durable Europe du Sud chez Interface. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci.
Et Nathalie Offray-Guyenne, vous êtes responsable développement durable et environnement du groupe Aegis.
Tout à fait.
Bonjour. Bonjour Nathalie, bienvenue à vous. Tiens, on va commencer avec vous, avec une petite présentation justement de votre groupe.
Très bien. Eh bien Aegis, c'est un groupe international implanté dans 120 pays avec 16 000 collaborateurs. On est un groupe de conseil et d'ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Pour faire simple, on est un peu l'équivalent, si vous voulez, des architectes pour les maisons, mais pour tous les grands projets d'aménagement du territoire. Donc, des routes, des barrages, des aéroports, la création de villes nouvelles, etc. Et on a la particularité aussi d'exploiter des infrastructures de transport, donc des aéroports et des autoroutes. Donc, on a intégré depuis plusieurs années le changement climatique, compte tenu de nos activités dans la stratégie de l'entreprise. Et notre ambition, c'est de devenir un acteur de référence des infrastructures, des bâtiments intelligents et durables au service de la lutte contre le changement climatique et d'améliorer le cadre de vie des populations.
Ça fait pas mal, effectivement. Voilà. vous êtes vous-même responsable donc, du développement durable, je l'ai dit, et environnement. Auparavant, vous étiez directrice de projet environnement, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et formation biographe de la biosphère, bioclimat, océan. Qu'est-ce que c'est un biographe de la biosphère?
Géographe, pardon. Bah en fait, si vous voulez, maintenant, on appellerait ça en formation, les formations à l'environnement.
Oui.
C'est vraiment d'étudier toutes les interrelations du système Terre entre le climat, tout ce qui est biosphère, donc le vivant, et les océans. Donc, c'est vraiment comment ça se passe à la surface de la Terre, tous ces échanges, etc. Et ça aide à comprendre le changement climatique, notamment.
Exactement. Voilà, on fait un petit point également sur Interface, Laetitia, avec vous, Laetitia Boucher. Voilà, on a déjà fait plusieurs émissions ensemble. Néanmoins, on reprécise ce que fait Interface. Je le disais, hein, on a deux groupes très très différents. Vous êtes dans les produits, dans la production, voilà, et vous avez eu beaucoup d'interrogations. On l'a vu au cours de la dernière émission. Présentez-nous à Interface brièvement.
Donc c'est une entreprise, on fabrique des revêtements de sol modulaires. Effectivement, on est coté en bourse, notre siège social est aux États-Unis, on est à peu près 5000 dans le monde. Et on s'est lancé en tout cas sur les problématiques environnementales suite à une question d'un de nos clients qui nous a demandé ce qu'on faisait pour l'environnement dans les années 90. Et à cette époque, on n'avait pas de réponse, mais le CEO qui est emblématique en tout cas et très connu dans le milieu de l'environnement, Ray Anderson, a voulu apporter une réponse et a lancé la première mission, je crois, qui a existé bien avant la loi Pacte, qui s'appelait à l'époque Mission Zéro. Et l'objectif, c'était d'avoir aucun impact sur l'environnement d'ici 2020. Donc ça, c'était dans les années 90, il faut quand même le préciser.
Et l'objectif a été atteint, on l'a vu, dès 2016. Et du coup, vous avez embrayé sur une nouvelle stratégie, une véritable stratégie climat. C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est une stratégie climat?
Alors, une stratégie climat, déjà, comme son nom l'indique, c'est une stratégie et donc ça doit impliquer toutes les parties prenantes de l'entreprise et également des parties prenantes externes, mais déjà d'embarquer tout le monde dans l'entreprise. Et puis, par ailleurs, le climat, c'est une science. Il faut quand même s'appuyer sur des méthodes robustes, sur la science. Et nous, on a choisi de s'aligner donc sur les accords de Paris et ce qu'on appelle la net zéro, c'est-à-dire de faire en sorte de contribuer à la neutralité carbone en 2050 et d'équilibrer donc ce qu'on émet dans l'atmosphère et ce qu'on va séquestrer.
Ce qu'il y a, c'est que quand on dit 2050, c'est un peu comme les rapports du GIEC. Alors, vous avez vu, la catastrophe était pour 2100, puis pour 2050, maintenant elle est annoncée pour 2025, donc après-demain. Un objectif 2050, est-ce que c'est réaliste, je veux dire, en termes de projection? Parce que, en tant que salarié, en tant que collaborateur, on se dit, bon, 2050, c'est quand même dans plus de 25 ans, je ne sais pas où je serai, peut-être je serai à la retraite d'ailleurs.
Moi, oui.
Voilà, mais est-ce qu'on arrive à mobiliser, à se projeter sur des horizons aussi longs, ou est-ce qu'il y a finalement des milestones, des crantages qui vont se faire, peut-être déjà à échéance 2025-2030 pour essayer de donner un cadre dans un temps plus contenu?
Oui. Alors nous, on a initié notre première stratégie climat en 2018. On s'était donné une première échéance à 2020 pour vraiment enclencher les choses. Et là, notre programme dédié au changement climatique, on a des jalons à 2025, à 2030. Mais c'est vraiment pour se donner une perspective et se dire qu'on est aligné sur vraiment cette contribution à l'horizon 2050. Effectivement, il est nécessaire de jalonner toute la démarche. Et puis surtout, pour faire des points, savoir où on en est, rectifier le tir si on n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est absolument nécessaire. Et puis aussi pour mobiliser les gens, parce que 2050, comme vous l'avez dit, c'est quand même loin.
Et du coup, concrètement, quelles vont être les actions qui vont être mises en place là, pour 2025, pour 2030?
Alors, on en a plusieurs. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre dans une stratégie climat, c'est qu'il y a deux choses. On prend en compte l'impact que l'entreprise a sur le changement climatique, et c'est ce qui va entraîner des actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ou pour séquestrer les émissions de gaz à effet de serre par le biais de solutions naturelles. Mais c'est aussi de prendre en compte les impacts du changement climatique sur l'activité. Peut-être que Laetitia en parlera plus longuement que moi, parce que nous, on est une société de service, on est un peu moins impacté, mais en tous les cas, on est obligé de prendre en compte cette double matérialité, hein, ce qu'on appelle une double matérialité. Donc vraiment de regarder les deux aspects. Et ensuite, en termes d'action, donc nous déjà, les premières actions qu'on a mises en place, c'est pour réduire notre impact, notre empreinte carbone interne. On a déjà baissé de 25% nos émissions de GES sur le scope 1 et 2, donc c'est les émissions directes de l'entreprise. Maintenant, on s'attaque, depuis deux ans, à changer aussi les procédés dans nos métiers pour intégrer l'éco-conception dans toutes nos missions qu'on réalise pour nos clients, pour justement qu'on soit le plus vertueux possible sur l'environnement, voire même qu'on puisse régénérer des milieux naturels, hein, puisqu'ils contribuent aussi à stocker du carbone, pour régénérer le vivant et faire en sorte qu'on soit au rendez-vous de cette neutralité, de la contribution à la neutralité carbone en 2050.
Ouais, c'était une demande client, c'est-à-dire quand on est comme ça un acteur de service, qu'on est au contact de clients, c'est un plus ou c'est aujourd'hui quelque chose dont on ne peut pas se passer? Par exemple, pour les appels d'offres, Comment ça se traduit?
Alors, ce n'est pas forcément une demande de client. Ça dépend déjà dans quelle région du globe on se situe. Mais en tous les cas, pour nous, c'est essentiel. On a quand même 350 personnes dans l'entreprise qui sont des ingénieurs en environnement. Donc, pour nous, ça faisait absolument sens et c'était essentiel d'y aller. Il y a quelques grandes villes, métropoles à sensibilité écologiste qui forcément vont dedans, mais c'est pas encore prégnant dans les appels d'offres. Nous, on travaille quand même encore pas mal pour la sphère publique. On voudrait voir un peu plus d'appels d'offres plus volontaires sur ces sujets, mais en tous les cas, nous, on se veut force de proposition.
Même question, tiens Laetitia, vous aussi qui êtes avec vos clients, est-ce qu'on observe un changement dans les mentalités des gens qui vous demandent maintenant d'être encore plus vertueux ou qui cherchent, même peut-être vos clients, qui sont souvent des grandes entreprises aussi, à devenir plus vert, pas seulement plus vert parce que ça fait greenwashing, mais vraiment qui sont convaincus et qui ont envie d'avancer et de calquer sur votre exemple.
Oui, en fait, effectivement, depuis quelques temps, on observe notamment sur les cahiers des charges des appels d'offres, on a de plus en plus de volets environnementaux, des fois plus ou moins complets, donc c'est assez intéressant. On sent certaines difficultés où il va y avoir des personnes qui tâtonnent encore sur ce qu'ils vont imposer à leurs fournisseurs, qui s'adossent beaucoup aux certifications et aux labels. Et puis, c'est la seule chose qu'ils vont demander, alors que parfois, ils vont peut-être passer à côté d'entreprises qui sont réellement vertueuses et qui vont au-delà des labels, au-delà des certifications, et qui, du coup, n'éprouvent pas, en tout cas, la nécessité de labelliser l'entreprise. Mais oui, on commence à l'observer. En tout cas, il y a la volonté, puis on est très vite rattrapé par le prix. malheureusement, encore.
On va en parler dans un instant. Alors, pour Interface, c'est vrai que dès 2016, on le disait, vous saviez que la mission ou les objectifs donnés par votre patron allaient être accomplis. Et du coup, vous êtes demandé qu'est-ce qu'on va faire après. Mais ça a été une décision, finalement, une prise de décision collective. Racontez-nous.
Oui, en fait, effectivement, on savait qu'on allait atteindre notre mission zéro. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait derrière. On a fait un sondage, entre autres, auprès des salariés, à savoir l'ensemble des salariés, donc au niveau mondial, bien entendu, à savoir ce qu'on allait faire derrière. Et en fait, la réponse, principalement, c'était d'essayer de répondre à l'urgence climatique. Donc, c'était assez intéressant parce que on voyait que il y avait une vraie volonté des salariés de continuer l'aventure et d'essayer d'aller au-delà de l'impact neutre, on va dire, essayer d'avoir un impact positif sur les écosystèmes environnants. Il y a eu un vrai engouement pour ça. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, avec Climate Take Back, donc notre nouvelle mission, dont l'objectif est de participer de manière active à l'inversion du réchauffement climatique, ou en tout cas à le stopper, avec un objectif d'ici 2040 de réussir à être négatif en carbone à la fois sur nos opérations, nos produits et nos services. Donc il y a une vraie volonté d'être une entreprise régénératrice qui va... participer de manière positive, en tout cas sur les écosystèmes.
Oui, tout à fait. Chez Aegis, on s'est doté récemment d'un directeur climat, carrément, puisqu'on voit une émergence de nouveaux métiers, pour le coup, qui n'existaient pas il y a 4-5 ans. Bon, le petit message aux plus jeunes, qui s'interrogent souvent sur leur avenir. On a des métiers sûrement qui n'existent pas encore et qui vont arriver, là, avec toute cette transition énergétique et écologique. Comment se répartissent les rôles, vous qui êtes, on le rappelle, Nathalie Friguet, responsable développement durable et environnement, avec ce monsieur énergie finalement.
Alors, c'est pas un monsieur énergie, c'est un directeur climat, donc c'est plus large que... on se répartit les rôles parce que la tâche est grande. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire, d'autant plus qu'on intervient dans différentes géographies. Donc, le directeur climat, il a plus un rôle vers les politiques, le board, les actionnaires, essayer de mettre en cohérence et en musique tout ça. Et puis après, il faut le décliner dans les business lines, dans les différentes activités. Et donc, moi, mon rôle, c'est aussi de travailler avec tous mes correspondants que j'ai dans les business lines pour faire passer cette culture et faire aussi passer quelques changements dans les métiers.
Oui, alors justement, c'est très important. On va parler un petit peu des collaborateurs parce que, il y en a qui sont, comme vous, très passionnés, très investis, très en avance, on pourrait dire early adopters. Et puis, il y a les autres, qui sont peut-être un peu plus réticents. On a des freins parfois au sein de l'entreprise. Comment on fait pour les lever? Ça passe par quoi? Par de la pédagogie, par de l'éducation? Est-ce que déjà c'est quelque chose que vous avez ressenti? C'est-à-dire d'être très enthousiaste et puis qui traînait peut-être un peu la paix, qui n'avait pas forcément envie de changer?
Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, on a quand même pas mal de collaborateurs qui travaillent dans l'environnement depuis des années, donc pas seulement des jeunes. Heureusement, il y a des plus anciens aussi qui sont passionnés par le sujet, mais les jeunes, effectivement, le sont. Et du coup, d'avoir cette sensibilité dans les équipes, finalement, ça crée quand même une ambition collective et ça aide aussi à emmener tout le monde. Bien entendu, il y en a toujours qui sont un peu réticents, mais quand on explique, qu'on voit que ça va dans le bon sens, on arrive petit à petit à amener. Après, ce qui est dur... C'est aussi de faire changer les process de production, d'intégrer des choses sur lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Et là, effectivement, ça passe par de la pédagogie, de la formation, et puis des sessions de travail communes pour justement embarquer la majorité des collaborateurs.
Il faut que ça soit très aligné, en tout cas que le management soit très aligné. Alors, c'était le cas chez Interface, avec votre patron visionnaire, finalement. Comment c'est relayé, là aussi, sur le terrain? Bon, chez Interface, il n'y a pas de sujet, quoi.
Il peut y en avoir.
Quels vont être les points de friction? Quels vont être les freins, par exemple, Laetitia Boucher?
En fait, c'est comme on évolue toujours, en tout cas au niveau de la stratégie climatique, il faut à chaque fois expliquer les étapes. On a toujours des sceptiques, je pense, à tous les niveaux, de toute manière, où ils ne voient pas forcément l'intérêt. On a quand même quelques commerciaux sur le terrain qui sont en train d'essayer de vendre un produit. Donc, il y a souvent des frictions sur ce genre de choses-là. Il y a des convaincus et des beaucoup moins. Donc, il faut les former et la formation chez Interface fait vraiment partie de notre quotidien, c'est-à-dire que je les forme très régulièrement, de la personne qui s'occupe de l'accueil au DG de la business unit, sur ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on le fait, où est-ce qu'on va, etc. Pour justement qu'ils comprennent la démarche, soient en empare et puissent être acteurs à leur tour et les embarquer.
Et parmi les clients, bon, alors ils sont évidemment contents d'avoir ou des services ou des produits effectivement qui visent à régénérer notre planète, notre écosystème. Pour autant, c'est vrai qu'on peut avoir aussi, vous le disiez, un argument prix à un moment qui va jouer, qui va se dire, bah ouais, mais moi, surtout en ces temps d'inflation extrêmement forte, ça peut jouer aussi, ça peut être un frein.
Oui, c'est souvent, ça reste le prix, reste le frein principal. Là, tout l'enjeu aujourd'hui, en tout cas de personnes comme Nathalie et moi, c'est d'essayer de faire passer la valeur purement économique d'un produit, d'un service, vers une valeur environnementale, enfin même durable. Mmh. Et du coup, c'est vraiment un changement, une évolution des mentalités qu'il faut avoir. Et là, à nouveau, c'est de la pédagogie, expliquer ce qu'on est en train de faire, pourquoi, faire limite une mini fresque du climat pour expliquer quels sont les enjeux du carbone, ouais, avec ouais. Le climat, les phénomènes climatiques, on commence quand même à beaucoup les voir, hein, et pourtant, je le rappelle, on est à plus 1,1, je crois, selon les scientifiques, degré de hausse de température par rapport à l'ère pré-industrielle, et on voit vraiment, on le subit, on l'a subi récemment encore, ce phénomène de réchauffement climatique, ouais. Avec tous les phénomènes météo extrêmes qu'on voit. Donc, il y a une vraie urgence. Il faut bien qu'on se dise que le climat qu'on a là, en ce moment, dans 10 ans, on ne l'aura plus, on ne le retrouvera pas.
D'accord, ça sera pire alors.
Exactement.
Merci, c'est sympathique, hein, les émissions avec vous. On va quand même essayer de donner un peu de perspective sur ce sujet quand même. J'insiste, c'est vrai que est-ce que aujourd'hui les clients, vos clients chez Groupe Aegis, ils sont prêts à payer pour cette survaleur environnementale et écologique est-ce qu'ils le comprennent?
Alors ils le comprennent, oui, pas tous. Parce que dans nos clients, on a des gens qui n'ont pas été formés au sujet, qui entendent ça et qui ne voient pas vraiment, et qui ne comprennent pas non plus forcément comment on peut agir dessus. Donc c'est vrai que moi, le message que j'aurais à faire passer aux jeunes générations, c'est aussi formez-vous sur le sujet, parce que pour avoir des bons plans d'action derrière, il faut comprendre quand même ce qui se passe. Donc ça, c'est la clé. Donc oui, il faut batailler aussi auprès des clients pour essayer de leur faire passer des choses, ne serait-ce que faire un bilan carbone d'une infrastructure pour bien mesurer sûr. Et prendre conscience finalement de ce qu'on peut améliorer. Voilà, donc c'est de la pédagogie. Il y en a qui sont prêts à payer plus, il y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Nous, on a la chance, entre guillemets, d'avoir certaines réglementations qui peuvent aider, parce que sur les grands projets d'aménagement du territoire, on a l'obligation de mener des démarches environnementales. Donc voilà, l'outil réglementaire peut aider. Mais c'est pas le cas dans tous les pays, encore une fois. Donc,
On a eu des critères
on y va lentement,
mis en place, de nouvelles règles. L'État, et c'est tant mieux, s'en empare. Et puis au niveau européen, en tout cas. Est-ce que vous observez une demande, quand même, une prise de conscience depuis la crise sanitaire, où Laetitia parlait de grands phénomènes climatiques qui vont aussi opérer et se multiplier apparemment. Est-ce qu'il y a une prise de conscience de la part de l'écosystème, de se dire, tiens, il est quand même temps qu'on change nos pratiques?
Moi, j'ai pas vu de différence en tous les cas liée à la crise sanitaire.
D'accord, on reprend comme avant.
Ouais. Ce qui est en train de changer, c'est la sortie de la taxonomie européenne,
oui.
qui donne une très grande impulsion, notamment au monde des investisseurs, au monde de la finance, qui investissent dans des projets, et là où ils commencent à mettre quand même la barre assez haut. Et ça, ça a vraiment un impact marquant. Et on voit de plus en plus que ça accélère quand même les choses.
On le rappelle, hein, c'est la taxonomie, rien à voir avec une nouvelle taxe, la taxonomie européenne qui désigne une classification des activités économiques ayant un impact favorable sur l'environnement. Et l'idée, c'est d'orienter les investissements vers les activités vertes, avec diverses activités qui ont été déterminées. C'est vrai que ça peut accélérer également l'action, comme ça, des nouvelles textes de loi, des nouvelles réglementations.
Oui, ça aide quand même pas mal, effectivement, mais c'est vrai que à partir du moment où on essaye de se conformer à la réglementation, ça veut dire qu'on est déjà en retard, en fait. Parce que la réglementation, souvent, arrive après les faits. On sait qu'on est dans l'urgence aujourd'hui. C'est vrai qu'on a la chance, en tout cas en France, d'avoir beaucoup de réglementations environnementales qui commencent à entrer en vigueur. Mais bon, à notre goût, ça va pas encore assez vite, malheureusement. Vous l'avez rappelé, hein, 2025, c'est demain. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pris des engagements, notamment avec The Science Based Target, avec une première étape à 2030. C'est dans 8 ans. Je pense qu'il y a énormément d'entreprises qui vont d'un seul coup se rendre compte qu'il va leur rester 2 ans pour
pour se mettre en ordre,
atteindre exactement leurs objectifs, et on n'est pas sûr qu'ils les atteindront. Donc il faut vraiment se mettre en force d'action total.
Pour ceux qui n'y arriveraient pas, justement, est-ce qu'il y a un risque aussi de réputation pour finalement les mauvais élèves, les derniers élèves de la classe, votre avis?
Je sais pas. En fait, vu le nombre d'annonces qui sont faites tous les jours sur nous, on vise la neutralité carbone d'ici tant, et puis on va faire ci, on va faire ça.
Qui va contrôler aussi, c'est ça?
Parce que c'est
peut-être des effets de l'annonce. Derrière, on ne sait pas réellement ce qui est fait. Alors, nous, on en parle, et puis quand on est vertueux, comme vos deux entreprises, c'est vrai qu'on a tout intérêt à communiquer. Celui qui ne va pas atteindre ses objectifs ou qui va traîner un peu des pieds, il ne va pas forcément le clamer tout haut non plus.
Oui, ou il va jouer sur les termes, et puis ça passera. C'est aussi la problématique des consommateurs ou des utilisateurs qui commencent à être au fait de ce qui se passe, mais parfois qui ont une partie de l'information, qui sont mal renseignés, et du coup, et moi-même, il y a des fois, en tant que responsable développement durable, pourtant j'ai toujours le nez dedans, il y a des moments où je ne sais pas où chercher l'information, parce que je n'arrive pas à la trouver, et je n'arrive pas à juger de la véracité de l'information transmise par l'entreprise et de la véracité de ses engagements.
Il y a aussi un risque d'asymétrie entre effectivement des gros groupes qui peuvent avoir effectivement en leur sein des responsables développement durable comme vous deux, ou les plus petites structures qui n'ont pas les moyens, ou le DRH ou le manager va faire un peu tout. Donc passer aussi peut-être des fois à côté de certains textes, parce que c'est de plus en plus loin aussi, à embrasser toute cette réglementation et être à la page finalement de tout ce qui se passe.
Je pense qu'ils vont malheureusement pas avoir le choix, c'est-à-dire que si la réglementation leur impose de faire des choses, maintenant on impose aux petites structures de faire un bilan carbone simplifié. Alors, ça nécessite pas forcément d'avoir un spécialiste, vous pouvez toujours payer au coup par coup des prestataires qui sont spécialisés, mais n'empêche qu'un prestataire, ça se pilote, et donc il faut un minima, une culture. Et c'est tout l'enjeu, le management, il faut aussi faut surtout que le management se forme pour être à même d'être sûr d'intégrer correctement les enjeux du changement climatique, et surtout de trouver les bonnes actions. C'est le risque, c'est de ne pas trouver les bonnes actions qui vont en face, et d'avoir des fausses bonnes idées, en fait. Donc, c'est important, la formation.
En tout cas, bonne nouvelle pour vous. A priori, ce sont des nouveaux métiers qui ont émergé et qui sont de plus en plus observés, courus. Cette transition énergétique et écologique d'entreprise. Justement, vous avez raconté votre passage de géographe de la biosphère à responsable développement durable. Quels sont les prérequis pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être tentés par ces métiers?
Alors, si on veut vraiment être responsable climat ou environnement, il faut avoir un bagage scientifique. Ça, c'est clair. Donc, sciences de la terre, sciences de la vie, toutes ces formations en environnement. On peut être aussi ingénieur agro. Du moment qu'on a une culture scientifique, des bases même mathématiques, si on parle de bilan carbone, etc., ce sont des bagages qui aident, forcément. Maintenant, quelqu'un, il y a beaucoup de gens aussi passionnés qui veulent changer de travail. Moi, j'ai des entretiens des fois avec des gens qui me contactent par LinkedIn. Je fais pas de pub, mais quand même un peu, et qui me disent j'aimerais changer de métier. J'ai vu ce que vous faites. Qu'est-ce que vous me conseilleriez? Si on est intéressé, il y a quand même des formidables outils maintenant grâce à Internet où on peut se cultiver. Il y a le Shift Project qui diffuse des tas de choses intéressantes qui permettent d'augmenter sa formation professionnelle. Donc en tous les cas, on ne peut pas prendre en main ce sujet si on n'a pas un bagage minimum, ça c'est clair.
J'ajouterais même si on ne l'entretient pas, parce que ça va extrêmement vite entre la législation, l'innovation, les concepts de développement durable qui évoluent énormément. On a effleuré le sujet tout à l'heure, il y a aussi les effets rebonds, c'est-à-dire que parfois on va prendre une bonne décision ou une décision qu'on pense est bonne, et puis finalement les effets à l'autre bout de la terre, ça va être un tsunami. Donc c'est toute cette... évaluer les effets sur du long terme, c'est pas toujours évident, même si aujourd'hui, en termes d'innovation, de technologie et de savoir, on est quand même très doté par rapport à il y a une dizaine, voire une quinzaine d'années. Il y a vraiment une grosse culture à avoir, et il faut être extrêmement curieux, je pense, si on veut faire ce métier.
Et j'ai l'impression aussi, pour atteindre les objectifs et faire bouger l'ensemble de l'organisation, qu'elle soit privée, publique, etc., en tout cas, emmener tous les collaborateurs, c'est aussi mener une approche transverse. Vous insistez sur ce point, c'est-à-dire pas aller voir simplement le petit bout de la lorgnette, juste la division développement durable. Il faut aller voir la RH, les achats,
la production. En fait, il faut apprendre à ne plus travailler en silo, mais vraiment en transverse. En tout cas, si on veut prendre une... Enfin, on peut prendre des engagements, mais après, pour les réaliser, il faut vraiment impliquer tout le monde. Donc, effectivement, la R&D, les RH, les responsables de développement durable, le service achat, les opérations, etc. Et on ne peut pas y arriver seul. En tout cas, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup plus de la partie service chez Nathalie, mais nous, on est fabricants, donc on a forcément des fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est en tout cas nous, leur implication, c'est ce qui nous a permis de faire baisser drastiquement nos émissions de CO2, en tout cas sur l'empreinte carbone de nos produits et même l'empreinte carbone de notre usine, de nos usines. Donc c'est très intéressant, important. Et après. Aussi, tout ce qui est travail multipartie prenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement les fabricants ou les fournisseurs, il y a aussi les universitaires qui peuvent nous aider à trouver des solutions, de l'innovation. Il y a nos concurrents aussi, qui peuvent aussi... on peut faire ce qu'on appelle de la coopétition, c'est-à-dire qu'on va travailler avec nos concurrents pour développer des services, des idées, etc. Donc, il y a vraiment une collaboration multi-service et multi-partie prenante, c'est vraiment ça, sans oublier, bien entendu, les utilisateurs qui peuvent avoir aussi de très bonnes idées.
On a l'impression d'une co-construction, en tout cas, on ne pourra rien faire tout seul, on l'a bien compris. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir cet éclairage de deux spécialistes. Un grand merci à Nathalie Offray-Guilaine. Je rappelle que vous êtes responsable développement durable et environnement du groupe Aegis. Merci à vous, Nathalie.
Merci aussi.
Merci à Laetitia Boucher, responsable développement durable Europe du Sud chez Interface. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Climate Take Back.
Climate Take Back, ou comment devenir une entreprise régénératrice. Une émission en partenariat avec Interface.